l'artichaut.
C'est l'artichaut.
Artichaut, le moment où on parle d'art. Bonsoir, bonsoir pour le vendredi soir. Ici pour vous servir Carotte au micro de Erdiwa pour l'artichaut. J'espère que vous êtes bien marrés en écoutant notre dernière émission.
Ouais, c'était bien. C'est bien quand c'est un peu chaud. Puis comme ça intéresse les gens à l'art. Alors justement, la Malo... Parce qu'on avait parlé un petit peu du cambriolage des tabatières du luxe de poche dans ce fameux musée de Cognac-Jay. Et ça m'a donné envie d'aller creuser un petit peu plus sur les grands voleurs d'art et surtout ceux qui le faisaient pour l'amour de l'art, pas pour recel et revente et plus-value. Non, non. Pour l'amour de l'art, pour les avoir chez lui.
Passion, crime, crime, passion, quoi.
Ouais, un crime au nom de l'amour de l'art. Ah, donc c'est merveilleux et c'est pour ça qu'en introduction, hop, l'Arsen.
C'est le plus grand, le plus charmant, le plus élégant, avec ses gants, ou bien sans gants, à l'Arsen. Quand il s'amène, quand il s'en mêle, tout se démêle, tout se dégèle, et sans scène, l'Arsène. Quand il s'approche, on cache les broches et les sacoches, il vide les poches, sans arrière-poche, l'Arsène. C'est le roi des casseurs. C'est le roi des tombes, il est brillant comme le diamant, rapide comme le vent, l'Arsène. Avec son parapluie, sa moustache mise en blé, l'Arsène. Avec son flair infaillible, il est irrésistible, l'Arsène. Irrésistible. Et parfois l'usine, le bel Arsène. C'est un persan de coffre-fort, c'est un casin de joli cœur, le redresseur de tous les torts, Arsène. C'est un truand, un gentleman, un bon vivant, étourdissant, jamais perdant, toujours gagnant, l'Arsène. Quand il s'amène, quand il s'en mêle, tout se démêle, tout se dégèle, et sans scène, l'Arsène. C'est le roi des casseurs, c'est le roi. Comme le vent, le bel Arsène.
C'est tout en poésie que l'on commence cet artichaut avec Jacques Dutronc et le titre L'Arsène.
Alors, après l'Arsène de Jacques Dutronc, merci Jacques pour ce bel hommage au voleur, au grand cœur. On va s'occuper d'une autre aujourd'hui. Alors, il faut bien avoir cette petite musique un peu rétro dans la tête et ce décor un peu baroque et ces ambiances un peu vintage, années du milieu du siècle. Et alors, tu vas t'imaginer qu'on est à Anvers, en Belgique, en 1997. Dans la maison Rubens, qui est un magnifique bel hôtel particulier du XVIIe siècle, tout beau en lambris et en grandes fenêtres et tout. Et là-dedans, il y a qui roupille la collection prestigieuse du peintre Rubens dans ce musée. Il y a un couple qui flâne, ils sont jeunes, ils sont beaux, ils sont super bien fringués. Elle est genre en tailleur Chanel, lui il est genre en costume Dior. Et ils regardent avec émerveillement toutes les belles œuvres d'art et petits objets qui sont dans des vitrines. Il n'y a personne. Franchement, tu sais, les musées, déjà en 97, ça n'intéressait pas grand monde. Hein, mais alors là, bon, ils sont à peu près tout seuls dans le musée. Système d'alarme un peu inexistant. Gardiennage, trois Pékins. Et donc, il se balade. Et en fait, hop, dès que le gardien a tourné le dos, il sort son petit couteau canif de sa poche et toc, il commence à dévisser une vitrine. Sa jolie jeune compagne qui surveille discrètement le gardien tousse un petit peu. C'est le signe que le gardien arrive. Vite, il remballe son couteau dans sa poche et il continue à regarder que c'est magnifique et tout ça. Bon, 3-4 petits moments tranquilles à dévisser la vitrine. Hop, elle s'ouvre. Il chope 2-3 trucs dans ses poches et les vlas qui repartent par une petite issue du personnel. Bras dessus, bras dessous. Hop, belle voiture de sport. Ouit, il dégage. Donc ça s'est produit 239 fois dans 170 musées de toute l'Europe.
Quel record !
Et tout ça, ben, bien sûr, en plein jour, sans armes, sans violence, sans menaces, sans empreintes.
C'est génial.
Sans rien.
C'est magnifique.
Alors, il s'appelle pas Arsène Lupin, notre petit gars alsacien. Il s'appelle Stéphane Breitweiser. Il est né à Mulhouse, donc c'est vraiment un copain alsacien à moi. Hein. Moi, je m'appelle Dossmann et donc ma famille était un peu de Strasbourg. Et il est cousin au quatrième degré d'un peintre très célèbre alsacien, qui s'appelle Robert Breitweiser, donc comme lui. Donc ces dates de ce peintre avec une grosse coiffure noire sur la tête, c'est 1899-1975. Et notre joli Stéphane, qui lui est né en 71, donc comme je vous l'ai dit, a grandi dans une famille très 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 bourgeoise, qui était rempli de meubles Louis XV, des collections d'armes, des collections de tableaux anciens, des livres rares, donc qu'ils aient été reçus d'héritage ou bien collectionnés par le père de Stéphane, qui est lui cadre riche dans une chaîne de grands magasins, donc il est cadre commercial. Apparemment, il gagne très bien sa vie. Donc le petit Stéphane voit la vie des années 70-80 au milieu de voitures de luxe pour aller en pension en Suisse, vacances tous les hivers au ski, balade en bateau sur le lac Léman, été dans une propriété de la Riviera. Enfin bref, un super train de vie de famille bourgeoise qui est bien plus qu'agréable. Mais malheureusement, ben, tout va s'écrouler pour lui au moment du divorce de ses parents à la fin de l'année 1991. Et en fait, il est mal à mort avec son père. Donc, je ne sais pas ce qu'a fait son père, mais toujours est-il que je pense que le père s'en est très bien sorti dans le divorce. Et lui, il vient d'avoir son bac. Et en fait, il se retrouve à devoir emménager dans un genre de petit appartement meublé avec sa mère, qui apparemment a perdu un peu tout dans le divorce. Et les meubles qui sont là, Malo, c'est de l'IKEA. Et donc, le Stéphane, il est ulcéré de se retrouver à peine à 18 ans projeté dans la précarité, la pauvreté. Et en fait, je pense que cette affaire de substitution, c'est une façon de remettre chez lui les objets qu'il avait l'habitude d'admirer ou de voir quand il était enfant. Donc du coup, très rapidement, enfin la même année, quasiment, il va se mettre à voler des vêtements, donc des vêtements de luxe. Il va voler des livres, il va voler tout un tas de petits objets de son enfance qui lui manquent grandement. Et comme il est jeune et élégant et cultivé et tout ça, bon ben, il ne va jamais se faire vraiment gauler. Alors, on l'a surnommé l'Arsène Lupin des musées. Et son premier vol, donc voilà, il a lieu en 95, donc juste un an après le divorce de ses parents. Il a lieu pendant qu'il fait une petite visite dans un château médiéval de Gruyère, en Suisse, là où il y a le fromage. Et avec sa charmante maîtresse et complice, donc, qui s'appelle Anne-Catherine Klein-Klaus, qui elle aussi a un bon nom alsacien, il raconte qu'il a été fasciné par la beauté, la mise en valeur de cette femme, ses yeux, ses traits. Il dit, on aurait dit un Rembrandt. Il est tombé amoureux de ce tableau. Alors, ce n'est pas un Rembrandt, c'est un Christian William Dietrich. Et il va, pendant qu'il n'y a pas de gardiennage, séparer avec son petit couteau la peinture de son cadre et hop, la rouler et la glisser dans sa veste. Ensuite, il va à Baden-Baden, donc ça c'est en 95, voler l'œuvre qui est sûrement la plus chèrement estimée de sa collection, qui est le portrait de la princesse Sibylle de Clèves de Lucas Cranach le Jeune, et qui est elle toute seule évaluée à presque 6 millions de livres sterling. En novembre 2001, il est arrêté à Lucerne, en Suisse, parce qu'en fait, ils ont fait un cambriolage et il est revenu 2 jours après le cambriolage pour effacer les empreintes qu'il avait cru laisser. Et la responsable du musée, qui l'avait vu 2 jours avant, et en fait, il était avec sa copine et c'était les 2 seuls visiteurs du musée 2 jours avant. Donc, quand il se repointe 2 jours après pour enlever ses empreintes, elle le reconnaît immédiatement et elle appelle la police. Donc là, il va faire 4 ans ferme en Suisse plus 2 ans ferme en France. Et là, tu peux nous mettre la chanson de Nina Simmons. Parce que c'est...
Cinnamon, where you gonna run to? Cinnamon, where you gonna run to? Where you gonna run to? All on that day, will I run to the rock? Please hide me and run to the rock. Please hide me and run to the rock. Please hide me, Lord, all on that day. But the rock cried out, I can't hide you, the rock cried out. I can't hide you, the rock cried out. I ain't gonna hide you down. All on that day, I said, rock, what's the matter with you, rock? Don't you see I need you, rock? Lord, 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 all on that day. So I ran to the river. It was bleeding around to the sea. It was bleeding around to the sea. It was bleeding all on that day. So I ran to the river. It was boiling around to the sea. It was boiling around to the sea. It was boiling all on that day. So I ran to the Lord. Please help me, Lord. Don't you see me praying? Don't you see me down here praying? But the Lord said, go to the devil. The Lord said, go to the devil. He said, go to the devil. All on that day, so I ran to the devil. He was waiting, ran to the yeah. The river, it was boiling around the sea. It was boiling around the sea. It was boiling all on the bay. So I ran to the Lord. I said, Lord, hide me. Please hide me. Please help me all on that day. All on that day, said a man, you ought to be praying. Ought to be praying, said a man. Ought to be praying. All on that day, I cried, power.
Vous êtes toujours sur le 107.5, 101.7 dans l'émission L'Artichaut. Tout en musique, on vient d'écouter Nina Simmons et on était plongé
dans l'histoire de notre Arsène Lupin, Stéphane, l'Arsène Lupin des musées. Donc on en était donc à ses nombreuses arrestations. Donc début avril 2011, tiens, ben il est de nouveau arrêté. En fait, il vient de sortir hein, à la suite d'une enquête de la gendarmerie de Strasbourg. Donc il va y avoir un avis de perquisition chez lui. Et il habite à Marmoutier, donc c'est franchement pas un gros bled. Et du coup, là, ils vont retrouver plusieurs dizaines d'œuvres d'art qui sont bien rangées dans deux petites chambres qui sont justement attribuées à cette collection. Et aussi du cash. Donc du coup, le procès va avoir lieu en 2013, il va prendre 3 ans, il va sortir en 2015 et il va retourner en prison en 2019. Et là, devant la justice, il va reconnaître donc le vol de 239 œuvres d'art. Les œuvres qui étaient volées avant 2001, donc elles étaient stockées dans deux chambres dédiées. Il va apprendre en prison que sa mère a jeté toutes les œuvres qui prouvaient la culpabilité de son fils chéri et adoré et qu'elle les a balancées dans le canal du Rhône-au-Rhin. Du coup, des plongeurs vont aller un peu voir ce qui s'y passe. Et là, ils vont ressortir de la flotte en bon état 110 œuvres qui vont être repêchées. Mais il en reste 60 très importantes qui sont introuvables, dont un Bruegel, un Antoine Watteau, un François Boucher, un Corneille de Lyon, un Jean Davidson de M et un Francesco di Antonio di Bartolomeo. Alors, après cette rocambolesque aventure, bien sûr, ce gars-là, il est célèbre dans le monde entier de l'art, évidemment. Et il y a un journaliste et auteur américain qui s'appelle Michael Finkel. Donc là, il a un film qui est sorti il y a un moment donné, qui s'appelle True Story. Donc je sais pas si tu as vu ce truc-là. Et sinon, il a écrit plusieurs bouquins, un qui s'appelle Le Journaliste, un qui s'appelle Le Dernier Ermite, où il a rencontré un gars qui vivait dans une forêt. Et il vient de sortir un bouquin qui s'appelle Le Voleur d'art, qui vient juste de sortir, et il a aussi acheté les droits pour produire un film à propos de ce fameux Stéphane. Donc il va bien finir par s'en sortir, le Stéphane. Alors, dans ce qu'on peut trouver à propos de ce braqueur, il y a une vidéo de Guillaume Georges qui s'appelle L'Arsène Lupin des musées, un documentaire de Daniel Schwinzer qui s'appelle Ceci est mon royaume, et Vincent Noce qui sorti un bouquin qui s'appelle La collection égoïste. Alors du coup, Michael Finkel, il l'a rencontré plusieurs fois, Stéphane, et il dit que il est super intéressant parce que bon, clairement, on a affaire à un genre de psychose, ou de, enfin, c'est un gars qui vole par compulsion, de manque de choses qui lui ont été spoliées, volées à son enfance.
Oui, de beauté aussi. Enfin, des choses qui éveillent.
Alors,
des choses chez lui.
C'est
quoi.
Super intéressant ce qu'il dit par rapport à ça. Parce que clairement, quand tu es élevé au milieu de la beauté, tu ne supportes pas la laideur. Par contre, quand tu es élevé au milieu de la laideur, tu as du mal à comprendre la beauté et donc tu la méprises. Donc, on comprend au travers de ce voleur d'art et d'amoureux de l'art que le sens du beau et tu peux être éduqué. On peut éduquer les enfants à avoir la sensation du beau, pourvu qu'on leur propose de temps en temps, au milieu du moche, de pouvoir percevoir globalement une œuvre et d'en éprouver tout le ressenti et l'émotion qui s'en dégage. Ensuite, Stéphane, il dit que les musées, c'est comme des prisons pour l'art. Et que pour lui, le fait de les sortir, il y a une forme d'évasion et d'émancipation des œuvres, c'est-à-dire de les faire passer du domaine public, où finalement elles sont mal comprises et mal vues. Et s'il peut faire autant de musées dans le monde, c'est que les musées sont peu sous alarme, sont peu surveillés.
Parce que c'était fait... à cette époque-là. Hein. Maintenant,
ouais, non,
je pense que tu ne la fais pas.
Ben,
si tu ne vis pas d'un petit couteau pour aller voler des musées.
Ben
là.
Oui, mais regarde le musée Cognac, j'ai là. Cette tabatière en argent.
Oui,
dans
mais
le
quand
poche,
on parle de grands tableaux, comme tu as dit, à un moment, il est parti avec une toile qu'il a mise et tout. Enfin, aujourd'hui, je ne suis pas sûre que ce soit aussi simple.
Ben, moi, je ne suis pas sûre que tous les musées soient ultra bien protégés. Le désengouement pour la chose culturelle de haut niveau, donc finalement le peu de visites dans des endroits un peu niches, parce que je ne te parle pas de Versailles, du Louvre ou de grandes maisons connues où les gens font la queue, quoi, ou le musée Dali, mais de petits musées niches qui ont des collections précises ou des époques précises ou des artistes précis.
Ouais.
Et qui sont en fait hors des circuits battus, donc vraiment pour les spécialistes de l'art. Et clairement, il y en a plein encore des endroits comme ça. Et tant mieux qu'on puisse voir.
Oui.
Mais donc du coup, lui, il met le point sur le fait que finalement, le domaine public, donc il dit, est-ce que c'est aimer l'art que d'essayer de prendre avec son appareil photo au milieu de plein de têtes un bout de la Joconde ? Est-ce que c'est ça, aimer l'art ? Donc, il remet en question la façon moderne des collections publiques et la façon dont les gens se jettent...
Consomment l'art plutôt que...
Voilà, exactement, Malo. Consomment l'art comme un café, et en plus dans des mauvaises conditions. Et toujours les mêmes œuvres, et se désintéressent en fait de la beauté de la peinture en général, et d'aller chercher, comme à la pêche, les beaux petits poissons qui traînent dans les
belles petites... Oui, on va prendre une photo de la Joconde, parce que la Joconde, c'est classico-classique, quoi.
Ben,
ça passe bien sur la photo Instagram,
ben,
et
voilà. J'en sais rien, mais...
Pas parce que la Joconde en soit évêquée, enfin... Alors, je pense qu'il y a des tableaux, justement, comme tu l'as dit plein de fois, l'art, c'est d'abord du ressenti, comme la musique, etc., et que... on devrait se laisser porter autant, comme tu dis, dans les grands musées que dans les tout petits. Exactement. Et voir qu'est-ce qui nous anime, qu'est-ce qui nous plaît.
Alors, je voudrais pas inviter les gens à aller voler dans les petits musées pas trop surveillés, mais c'est pas ça que je veux dire. C'est justement d'aller à la pêche de ces petits musées. Parce que clairement, on se rend compte que ces petits musées, s'ils sont pas plus visités, ben peut-être qu'un jour, ils vont fermer et que les petites collections précieuses et miraculeuses et inédites vont se retrouver dans les, ben dans les greniers ou dans les caves des très grands musées nationaux qui n'ont pas une étiquette politique, enfin qui ont justement des étiquettes politiques très gouvernementales et qui du coup ne peuvent pas donner à voir aux gens ces petites pépites qui sont disséminées dans les lieux et dans toute l'histoire de l'art. Mais du coup, je pense que le livre du Michael Finkel là, va être très intéressant, donc Le voleur d'art. Et puis le film qui va suivre sera éminemment intéressant aussi. En tout cas, c'est intéressant de se poser les questions de ce sens du beau. Là, tu vois, on a dit que dans certaines grandes villes de France, ils avaient décidé d'utiliser des grands panneaux d'affichage publicitaire pour y mettre des œuvres d'art classiques et justement faire entrer le beau dans la ville. Alors peut-être qu'on pourra voir rétrospectivement si des gens habitués au moche ont été émerveillés par ces trucs. On reste toujours dans les grandes images des grandes collections et des tableaux dits cultes, enfin de la culture générale, artistique, on va dire. Mais en tout cas, cette chasse au beau, enfin moi, il m'a beaucoup émue parce que ben, je me retrouve, enfin je vois bien, je comprends très bien ce qu'il a voulu faire. Et alors moi, dans mon petit atelier, c'est vrai que je recrée aussi des tableaux qui sont des maîtres que j'aime et que sûrement j'aurais aimé avoir évidemment à contempler chez moi dans mon salon. Mais cette façon compulsive de vouloir vivre dans le beau et d'accumuler de l'art et de se sentir aussi porté par ça. Parce qu'il a quand même une carrière, de voir qu'il a commencé en 94 et qu'encore en 2019, il est en train de voler des trucs. Il n'est pas guérissable, ce garçon. Donc, il faut en fait le mettre gardien d'un merveilleux musée ou le faire sortir, tu sais, de... C'est comme ça, il ne faut pas le mettre en prison. Il faut qu'il soit gardien de musée, puis le faire tourner dans les musées. Comme ça, il sera tous les jours au milieu de merveilles.
Oui,
quoi.
C'est vrai.
C'est ce que je lui souhaite. En tout cas, c'est des histoires qui sont touchantes et qui mettent le point sur des gars qui ne peuvent pas se passer d'art. Et voilà, donc il y en a. Il y a encore parmi nous des gens qui sont fascinés, happée, en transe devant le beau et les œuvres d'art et voilà, et moi ça m'émeut jusqu'aux larmes. Et pour finir, donc on va finir avec notre
Jean-Clement Cambrioleur
et notre Arsène Lupin. Des bisous à tous, des bonnes fêtes de préparatifs des bons préparatifs de Noël.
T'as donné des idées cadeaux là, c'est pas mal du coup.
Bah,
est-ce que le bouquin sera sorti un peu avant
le bouquin,
les fêtes
il est,
ou il
je
est
crois
déjà
qu'il
sorti,
est sorti. Il vient
le voleur d'art,
de sortir. Ouais. Ainsi que les lettres pornographiques, ce petit truc inédit là, ça sera début 2025, voilà.
Bah, début 2025, ce sera pour la Saint-Valentin du coup.
Oui, voilà, très bien, ça sera parfait, ça sera juste pour la Saint-Valentin.
On promeut l'art par rapport aux fêtes débiles qu'on retrouve chaque année, voilà, on est content.
Non, mais en tout cas, c'est vrai que si les fêtes peuvent vous servir à dépenser de l'argent de manière intelligente,
bah voilà,
bah évidemment.
Dans des bouquins, la petite librairie
la
du
culture,
coin.
Voilà. Le cul, la culture, il n'y a que ça dans la vie. Je vous embrasse, à la semaine prochaine peut-être.
C'est le plus grand des voleurs. Oui, mais c'est un gentleman. Il s'empare de vos valeurs sans vous menacer d'une arme. Quand il détrousse une femme, il lui fait porter. Il laisse un mot sur le piano.
c'est le plus grand des voleurs. Oui, mais c'est un gentleman. Et chaque femme a son heure.
C'est encore René Magritte à l'appareil. C'est pour dire que l'Artichaut, c'est vraiment une émission merveilleuse qui donne la frite.